Notre glaneuse du jour a baigné dès sa plus tendre enfance dans les flux contestataires et libres penseurs des années 60. Maman férue d'art, papa philosophe, les muses se sont penchées sur son repère d'enfant grandi librement. C'est grâce à l'écriture et au dessin que Dominique Leroux construisit la structure qui l'a soutenue pendant son adolescence, avant de plonger, presque par hasard, dans le cinéma.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée.
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
Je suis née à Bruxelles, à Schaerbeek. Ma mère était prof de latin, grec et philo. Et mon père faisait un doctorat en philosophie. Et puis il est devenu prof de philosophie à l'ULB, quoi. C'était un peu la mode de l'existentialisme après la guerre. Et donc il y avait toutes ces interrogations philosophiques par rapport à la liberté, à l'angoisse et tout ça. Donc c'était une bizarre famille, quoi, parce que je veux dire, c'était déjà il y avait une critique de toutes les institutions, que ce soit la famille, la religion, enfin tout ça, quoi. Donc il y avait ce truc très très trouble comme ça qui était présent, quoi. C'était pas une famille normale, quoi. Et en plus, mon père disparaissait tout le temps, donc on savait jamais où il était. Donc ma mère assurait un peu tout en travaillant. Et comme on savait jamais, on comprenait rien. Mais par contre, on avait une liberté absolue aussi, parce que on sortait dans la rue et puis il y avait des terrains vagues partout. Il y avait mes deux frères et moi. Et donc voilà, on jouait avec tous les enfants du quartier dans les terrains vagues et on était les personnages de nos histoires et on jouait avec ça et tout ça. Donc on avait un imaginaire de tous les enfants du quartier, en fait, hein. C'était libre, quoi. C'était compliqué parce que mes parents ne s'entendaient pas, donc ils se sont séparés très vite, hein. Chacun était dans son monde, quoi. Donc, il n'y avait plus beaucoup de transmission, en fait. La transmission se faisait de manière, sans parole, quoi. Quand je suis sortie de l'Athénée, je voulais faire la peinture. Parce que je peignais tout le temps, en fait. C'était ma façon à moi de m'exprimer, quoi. Donc je peignais tout le temps. Et puis, comme j'avais ma meilleure amie qui voulait aller à l'INSAS faire du théâtre, je me suis dit, j'ai envie de rester avec elle. Donc on va essayer de passer l'examen d'entrée de l'INSAS. Mais moi, au cinéma, parce que j'aimais le cinéma, en fait. Depuis que j'étais gosse, j'aimais le cinéma. Et donc voilà, on a passé toutes les deux les examens d'INSAS et on a réussi toutes les deux. Le cinéma, c'est quand j'étais toute petite, en fait, parce que mes parents avaient une petite caméra Super 8 et donc ils filmaient et puis ils projetaient sur le mur et puis on se regardait. Et je trouvais que c'était très beau l'idée d'avoir vécu deux fois les choses, enfin une fois... en vrai, et puis une autre fois de revoir ce qu'on avait vécu, mais tout à fait de manière tout à fait différente, quoi, avec un regard plus extérieur, comme ça. Et puis aussi louer beaucoup des films de Charlot et Laurel et Hardy et tout ça, et puis voilà, on projetait ça en famille. Et puis quand j'étais à l'INSAS, j'y allais tout le temps. On faisait les trois séances d'affilée. Tous les étudiants de l'INSAS étaient là presque tous les soirs, quoi. Puisque, effectivement, il n'y avait rien d'autre pour voir des films. Moi, je n'avais pas la télé, voilà. D'abord, je suis entrée en réalisation. Et puis, comme j'étais une des seules femmes et que ce n'était pas fort accepté, quoi, d'être une femme dans ce milieu-là, Donc on me faisait comprendre que je ne serais jamais à la hauteur, je ne pourrais jamais réaliser des films parce qu'il fallait être un homme qui soit une espèce de général en chef qui dirige toute une équipe et que les femmes étaient incapables de ça, quoi. Et qu'elles étaient, soi-disant, trop dans l'émotion, qu'elles pouvaient pas, enfin, qu'elles étaient faibles, etc. Et que donc, elles ne pouvaient pas montrer leur faiblesse dans des cas comme ça. Et donc, que j'y arriverais jamais. Enfin, ça, on m'a fait sentir ça tout le temps. Et puis, je me suis dit, bah, alors je vais passer au fond, je vais essayer de comprendre comment fonctionne le cinéma. Donc, je me suis inscrite en montage. Et puis, en montage, je m'ennuyais vraiment très fort. Donc, j'ai fait de la philosophie. J'ai été à l'ULB, j'ai fait 3 ans de philosophie. Pour comprendre un peu le monde, quoi, le monde dans lequel j'étais, quoi, qui était un monde qui bougeait beaucoup, hein, le monde post-68 et tout ça, il y avait quand même beaucoup de questionnements, quoi, sur le monde, comment le changer, comment le comprendre, etc. Et puis, je me suis dit, ben, je vais terminer le montage, gagner ma vie dans un premier temps comme monteuse. Et donc, je suis retournée à l'INSAS, terminée. Et quand j'étais à l'INSAS, comme je n'avais pas le droit de faire des films, puisque en tant que monteuse, on n'avait pas de budget pour ça, j'ai remis un projet directement à la commission du film, quand j'étais étudiante encore, et puis il a été accepté. Voilà. Et après, ben, il a fallu que je le fasse, quoi. Ça, c'était un autre problème. C'était un court-métrage en 35 mm de fiction, ce qui s'appelait Départ. On a créé une ASBL de production avec Philippe Simon, qui s'appelait Underworld, pour produire nous-mêmes, en fait. Et Philippe m'a aidé à réaliser le film. Et voilà. Et puis après, j'ai continué à remettre des projets. Et puis j'en ai fait 2 autres, donc 2 courts-métrages de fiction aussi en 35 mm. Après, j'ai décidé de faire... je suis partie beaucoup en Afrique. Moi, les films de Jean Rouch, de Souleymane Cissé, m'interpellaient beaucoup. Et j'avais rencontré aussi beaucoup d'Africains à Bruxelles, parce que c'était le moment où il y avait toute une immigration post-coloniale. Enfin, c'était la décolonisation, donc les Africains arrivaient. Il y avait beaucoup de Congolais, évidemment. Et donc, j'avais envie d'en savoir plus, donc je suis partie en Afrique. Et là, ben, j'ai remis toute notre façon de fonctionner occidentale en question. Ça m'intéressait de voir comment ils pensaient, quelle était leur cosmogonie, enfin voilà, comment ils fonctionnaient, quoi. Mon compagnon est psychiatre, et donc il a voulu faire une formation chez Toby Nathan. Et moi, je suis allée aussi, parce que ça m'intéressait vraiment. J'ai demandé si je pouvais filmer, il m'a dit oui, ce serait bien. Et donc, on filmait la consultation avec qui se passait de manière collective. Hein. Ça m'a permis de comprendre, effectivement, de faire le lien entre la pensée africaine et la pensée occidentale, en fait. Parce que Toby Nathan recevait donc des migrants et il faisait les passerelles culturelles, presque. C'est-à-dire que quand... un Africain parle de sort et tout ça, en général, on le diagnostiquait comme paranoïaque, par exemple, et on l'enfermait ou on lui donnait des médicaments qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'il avait, parce que pour un Africain, c'est normal de jeter des sorts ou d'en recevoir, quoi. Il arrivait à, quelque part, traduire ce que signifiait tout ce avec quoi les Africains venaient, comme pensée, comme explication du monde, pour que nous, on puisse les comprendre. Voilà. Donc j'ai compris plein de trucs chez lui. Donc je connaissais 2 Sénégalais, Narsène et Sékou Baldé. L'un était comédien ici en Belgique et en France. Et l'autre il faisait une formation d'infirmier psychiatrique à Bruxelles. La thématique du film, c'était les liens entre la communauté d'origine et qu'est-ce qui se passe quand on sort de cette communauté, qu'on s'en va et qu'on migre. Et effectivement, il y en a qui deviennent fous et puis il y en a qui se débrouillent très bien. Narsen se débrouillait très bien et Sekoubaldé se débrouillait pas très bien. Donc voilà, j'avais deux personnages là et puis je me suis inspirée de leur vie, de leur situation. Et puis il y a Sotigui Kouyaté qui était un griot mais qui jouait aussi notamment beaucoup avec Peter Brook, qui est un troisième personnage et qui lui raconte plutôt des histoires de la mémoire collective de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Donc, sur tous ceux qui ont migré, ce qu'on raconte de manière collective sur ceux qui ont migré en Europe.
Moi, je voyage beaucoup de l'autre côté de l'océan. J'aime à raconter l'histoire de ceux que je rencontre lors de mes voyages. Dans les gares, dans les aéroports, chez les tailleurs ou les coiffeurs qui se sont installés là-bas. Chaque histoire et chaque visage reste gravé en moi. Et je finis toujours par trouver un lien, même lointain, entre eux.
Je leur donnais un canevas et ils improvisaient sur ce canevas. Donc en fait, toutes les scènes sont improvisées, jouées, mais improvisées sur un canevas, quoi. Je lançais une idée, une proposition, et ils improvisaient. Voilà. Et souvent, ils improvisaient dans leur langue, donc je ne comprenais rien. Et je ne comprenais qu'après. Mais on sent très vite quand quelque chose est juste. Donc, je ne comprenais pas, mais je me disais, c'est pas grave, je comprendrai après. Et voilà, donc tout le film, c'est une hybride entre documentaire et fiction. C'est très, très ancré dans la réalité, mais c'est fictionnel, parce que les gens jouent leur propre rôle. Et puis, je trouvais que c'était beaucoup plus spontané, que ça apportait beaucoup plus de choses inconnues et surprenantes quand ils improvisaient, parce qu'il y avait des choses qui sortaient que je ne connaissais même pas, enfin voilà, qui étaient surprenantes. Et donc voilà, ça a commencé en fait comme ça, puis j'ai fait un film Divine Carcasse au Bénin. Ça a été en fait la même chose. Le film s'est construit un peu au fur et à mesure. J'avais un fil conducteur qui était que il y avait une voiture occidentale qui arrivait à Cotonou chez un coopérant et puis qu'elle passait de propriétaire en propriétaire jusqu'à devenir une divinité vaudou, puisque la culture vaudou, c'est polythéiste et ils ont des centaines de divinités, quoi. Ils ont des divinités pour tout, pour chaque chose. Donc voilà, donc là, c'était la divinité que les guérisseurs du village avaient choisie, c'était le dieu des gardiens de la nuit, Agbo. Voilà, parce que c'est le dieu protecteur du village, c'était le dieu le plus important dans ce village-là, en tout cas. Et donc, c'est moi qui leur ai proposé de faire une divinité avec la voiture. Et ils ont dit, c'est une très très bonne idée, on va accueillir cette divinité comme on accueille les autres divinités. Et donc finalement, le côté documentaire est devenu, disons que c'est devenu presque une réalité. Ce que j'ai proposé, presque mon rêve, est devenu presque une réalité. Voilà. Et que la fiction engendre le documentaire et le documentaire engendre la fiction, mais que chaque fois, il y a quelque chose de réel qui en sort, puisque là, la divinité, elle est restée. J'y suis retournée 2 ans après et elle fonctionnait très bien, elle était toujours là. Donc là, il y a eu une vraie transformation, quoi, de la réalité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est pas de le respect total de la réalité et de l'enregistrer telle qu'elle, mais au contraire, de montrer que moi, je transforme la réalité et que la réalité me transforme moi aussi, quoi. C'est toute cette aventure du tournage, des rencontres, avec les hasards, les surprises qui m'intéressent, en fait.
Moi, le devin m'a recommandé une cérémonie des revenants. Et c'est ce que j'ai fait pendant les 3 jours de mon absence.
Et alors, la voiture, ça marche maintenant?
Elle est encore au garage, chez le mécanicien. Même si elle ne marche pas encore, j'ai la paix. C'était ce que je voulais.
J'étais une femme blanche, oui. On me draguait souvent, ça c'est sûr. Mais en même temps, en tant que femme blanche, j'avais accès à beaucoup plus de choses que les hommes, par exemple. Parce que j'avais accès à la fois au monde des femmes. Les femmes m'accueillaient complètement dans leur monde, mais à la fois au monde des hommes, parce que comme j'étais une étrangère, je n'étais pas considérée comme une femme de leur culture, donc j'avais accès à tout, en fait. Il y a un côté ludique dans tout ça, et ils étaient tous partants pour ce côté expérience, nouvelle expérience, quoi. En Afrique, ils adorent les nouvelles expériences, quand on leur propose quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire et qui les fait imaginer des tas de trucs, ça fonctionnait très très bien, en fait. Et je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien en Europe, parce qu'après, bon, j'ai fait des films plutôt en Europe. Et en fait, ça marche aussi. On filmait en pellicule, donc on n'avait pas beaucoup de pellicules. Par exemple, Divine Carcasse, on a tourné 10 heures pour un film d'une heure et demie. Donc, on n'avait pas beaucoup de pellicules. Mais bon, ben, c'est toute une complicité aussi avec le caméraman, avec le preneur de son, qui doit aussi jouer dans ce jeu-là, quoi, et s'adapter à ça. Et ben, pour les films en Afrique, c'était Étienne de Gramont qui avait tourné avec Souleymane Cissé, notamment Le Vent. Et donc, il fallait s'adapter aux situations. Par exemple, Étienne, il avait l'habitude d'éclairer les peaux noires, parce que c'est très, très difficile à éclairer. Et on travaillait uniquement avec des réflecteurs, des choses comme ça, quoi. On travaillait avec le minimum. Et la nuit, quelques lampes, et on se branchait sur la batterie de la voiture, parce qu'on n'avait rien d'autre. C'était du bricolage, quoi, tout le temps, tout le temps. Mais en Afrique, tout le monde bricole. Donc c'est normal. La voiture, elle tombait tout le temps en panne, mais il y avait toujours quelqu'un qui sortait de je ne sais où et qui réparait la voiture, quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et qui... Il y a comme ça un côté bricolage, ouais, de s'adapter aux situations. J'avais rencontré Vinciane Després, et puis elle a sorti le livre « Quand le loup habitera avec l'agneau », qui est un livre fabuleux. Pour moi, c'est vraiment un des plus... Enfin, pour moi, c'est vraiment un livre très, très important, où justement, elle renverse les situations par rapport aux scientifiques qui étudient les animaux et montre bien que la plupart des expériences, quand les gens ne s'intéressent qu'à ce qui les intéresse eux... Ben, elles réussissent pas nécessairement parce que l'animal, lui, il s'en fout, quoi. Et je trouve ça c'est très beau. Donc, c'est un peu ça parce que c'était un questionnement que j'avais déjà eu beaucoup quand j'étais gosse. Et donc, voilà, ça m'est revenu. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ben, il y a des gens qui commencent à chercher autour de ça et avoir une autre pensée autour de ça, comme Franz de Waal, ou enfin, il y en a beaucoup. Et voilà, donc j'ai eu envie de faire. Un film sur comment les animaux nous regardent et comment nous on les regarde avec tous nos présupposés. Mais là, vraiment, c'est d'avoir entendu à la radio un fait divers qui m'a vraiment interpellée. C'est que des crabes chinois envahissaient une ville en Flandre et qu'ils bouchaient les filtres d'une centrale nucléaire à Doel. Ça m'a vraiment... j'ai trouvé que c'était le comble de... l'absurdité, presque. C'était une situation à la fois marrante et à la fois qui renvoyait à tout ce qu'on était en train de faire, de devenir dans ce monde, quoi. Le fait de s'intéresser à ce qui intéresse les animaux et de les voir non pas dans une optique uniquement utilitaire, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, chez eux, et en quoi ils nous sont utiles, mais vraiment de découvrir leur propre monde. Qu'est-ce que les humains autour sont en train d'en faire, d'en penser. Et on a trois rencontres avec des humains tout à fait différents qui ont vécu des situations tout à fait différentes avec ces crabes. Il y en a un qui a été envahi, des petites filles qui les découvrent et qui imaginent des tas de trucs. Et puis, il y a les des Chinois qui les mangent. Donc voilà, c'est trois regards différents sur ces crabes, plus évidemment mon regard qui parcourt tout le film, où on accompagne ces crabes et on est de plus en plus avec eux dans leur monde. Et ils sont, moi je les trouve vraiment intelligents, courageux. Je devais tout le temps composer avec leur intelligence, quoi. Avec comment ils allaient réagir quand je faisais quelque chose. Essayer de comprendre ce qui les motivait, ce qui les mobilisait, ce qui les intéressait. Les petits adorent jouer entre eux, quoi. Par exemple, ils montent sur un rocher et hop, ils se laissent tomber. Et ils adorent se laisser tomber comme ça. Et puis hop, ils remontent sur le rocher et hop, ils se laissent tomber. Enfin, on a découvert comme ça des tas de choses intéressantes et donc d'interactions entre eux. Parce que nous, les scientifiques, nous disaient « Ah ben non, c'est des estomacs sur pattes et ils n'ont aucune conscience de rien, c'est juste de l'instinct. » Enfin bon, ce qu'on dit des autres, ce qu'on disait des autres animaux il n'y a pas encore longtemps. Hein. Il y a des choses qu'ils ont découvertes qu'ils ne connaissaient pas. Il y a à la fois une question philosophique et puis des situations très concrètes, quoi. C'est toujours les deux. Et puis, il y a aussi comment traduire ce questionnement en œuvre artistique, quoi, en film. Et ça, c'est très difficile parce que j'essaye de ne jamais être dans l'explication, mais d'être toujours dans l'évocation, de faire comprendre les choses autrement que par le discours, voilà. Et la parole, l'explication, le côté journalistique, etc. Et donc, c'est chaque fois qui me pose le plus de problèmes. C'est comment... Ça a été très, très difficile, même avec Bob Verskuren, dans Au gré du temps. J'ai mis 2 ans avant de trouver comment le filmer. Et là, je l'ai filmé beaucoup plus de loin, parce que je trouvais que c'était un personnage. Mais dès que je le filmais de près, ça ne marchait pas. Et donc, comment me positionner? Et en fait, j'ai trouvé que ce qu'il fallait, pour ce film-là en tout cas, c'était qu'il s'inscrive tout le temps dans le monde environnement, qui n'est pas un décor, hein, qui est toujours... Parce qu'il utilise toujours le monde dans lequel il se trouve pour créer ses sculptures. Donc, il y a toujours un rapport avec ce monde-là. Et donc, il faut tout le temps... Dans tout le film, j'ai essayé de créer ce rapport entre lui et le monde autour. Chaque film est le fruit d'une évolution, enfin de toute une évolution à la fois de moi-même, mais moi-même dans le monde et de tout ce qui se passe autour, de toute une époque, puisque... Bon, le monde a beaucoup changé. Hein. et donc, moi, j'ai beaucoup changé aussi. Et les films que je fais changent aussi, même si je garde ce côté à la fois ligne de conduite philosophique et improvisation, hasard, etc. Mais chaque fois, mon regard sur le monde aussi a changé. Et le regard général sur le monde a changé. Les techniques ont changé aussi. Donc, même s'il y a des films qui sont ratés, ou que moi je considère raté, mais de toute façon je considère toujours que mes films sont un peu ratés, puisque sinon je continuerai pas. on fait jamais le film qu'on veut, quoi. On fait toujours un autre film, et c'est ça qui est chouette. Mais même donc s'il y en a que je trouve un peu plus ratés, ça correspond quand même à quelque chose, quoi, de profond, à une sorte de bataille avec moi-même et avec le monde.
Vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcast.